Alors, ça c'est Moshe. Moshe dit, ben, j'ai plus de questions. S'il y a des délateurs, on comprend bien que la délation, ça casse le peuple. Les gens n'ont plus de relation de confiance, etc. Chacun est sur son truc à savoir est-ce que mes enfants vont me dénoncer, comme sous les communistes, sous les nazis, les enfants dénoncer leurs parents. Mais voilà-t-il pas que dans le Midrash, on nous dit que dans ceux qui ont pris sur eux la responsabilité, qui se sont fait battre pour éviter que d'autres soient battus, il y avait deux personnages que vous connaissez qui s'appellent Dathan et Abiram. Ces gens-là, ceux qui ont dénoncé Moshe, dénoncent jamais leurs copains, leurs frères et les autres. Donc, ça veut dire ils ont dénoncé Moshe peut-être parce qu'ils pensaient. Les gens ne connaissaient pas tellement Moshe. Bon, Moshe, il est sorti voir ses frères. Et immédiatement, semble-t-il, tel que c'est écrit dans la Torah, immédiatement, il a vu ce problème avec cet Égyptien qui voulait frapper un Juif dont il avait violé la femme. Et puis ensuite, le lendemain, il a été dénoncé. Donc il a dû, et après, il a fui. Mais les Juifs ne le connaissaient pas, ce Moshe-là. Ils l'ont vu 2 jours, disons comme ça, ou quelques jours, et puis ils vont le retrouver 60 ans plus tard. Quand il va venir en Égypte, de chez Yitro, il va venir pour les sortir de Mitzrayim. Et c'est une des qualités qui sont attribuées aux Bnei Israël, qui ont en quelque sorte justifié que sortent de Mitzrayim, une des qualités, c'est qu'ils n'ont pas dit de lashon hara les uns contre les autres. C'est de cette histoire-là qu'ils n'ont pas, ils se sont pas dénoncés. Alors d'un côté, Moshe, est-ce que Moshe il a mal jugé la chose? Est-ce que c'est une erreur? Bon, c'est des midrashim, il peut y en avoir dans, ils vont pas tous dans le même sens. Mais on peut penser que Moshe, il a jugé d'après ce qu'il avait vu, mais il n'a pas vu l'essentiel, quoi. Il n'a pas vu que ils avaient cette qualité de ne pas se dénoncer, y compris Dathan et Abiram. Et que lui, ils l'ont dénoncé, mais peut-être parce qu'il était égyptien. Parce qu'ils le prenaient pour un prince égyptien, auquel ils ont dit, mais tu es pas, c'est vrai que tu es un prince égyptien, tu es peut-être le prince héritier, mais tu n'es pas en charge des esclaves. Donc, t'as pas à te mêler de nos affaires. Bon, c'est pas très clair, mais il faut savoir que ça balance des deux côtés, quoi. Alors, Hachem va répondre à Moshe. Et c'est ça qui se passe au début de Parshat Vayera. Alors regardez, on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Vaidaber Elohim El Moshe. D'abord, c'est Elohim qui répond à Moshe. Nous, on sait que Elohim, c'est le nom divin qui indique la Midat Adin, la sévérité. Donc, on comprend ici que Hachem parle à Moshe, mais il va lui parler sévèrement, il va lui dire des choses dures. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Ani Hachem. Il lui dit, je suis Hachem, je suis le tétragramme. On dit, Hachem, Hua Elohim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu me fais un procès comme quoi je ne suis pas sympa, que je fais souffrir le peuple, etc. Je suis Hachem. Mon rapport avec le monde, en particulier avec les pays d'Israël, c'est un rapport de tendresse. T'as rien compris. T'as rien compris. Alors, je t'explique. Va, alors, on lui explique. Vaera el Avraham et Yitzhak et Yaakov bekel Shakai. Avraham et Yitzhak et Yaakov, je me suis montré à eux d'après mon nom, Kel Shakai. Troisième nom. Shem, Lukim, El Shakai. Ushmi Hashem, mais mon nom, tétragramme, l'onodativré. Tout ce nom-là, je ne me suis jamais fait connaître à eux. Ça veut dire quoi? Alors d'abord, le fait qu'il y ait des noms divins. Je répète ce que je crois que je vais avoir dit. Les noms divins, ce ne sont pas des noms. N'y a pas de nom. Hachem n'a pas de nom. Quand Moshe lui a demandé qu'est-ce qu'il m'envoie, qu'est-ce que je vais leur dire, il lui a dit, tu diras Eke, Eke. Et après, Moshe a dit, mais ça ne marche pas. Alors donc, tu dis le raccourci alors. Ce n'est pas des noms. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des midot, des mesures. Les mesures d'Hachem, ce sont des indications quant à la façon de gouverner le monde d'Hachem. Donc, selon les circonstances, Hachem gouverne le monde avec tendresse, avec rigueur, comme ceci ou comme cela. On a une liste de noms, une assez longue liste de noms. Il est des fois longanime, il est des fois comme ci, des fois comme ça. Alors, comme on a vu, Elohim, on sait, c'est la Midat Hadin. Hachem, c'est la Midat de tendresse. Si ça vous plaît mieux, vous pouvez appeler ça la miséricorde. Et qu'est-ce que c'est qu'El Shakai? Alors, dans El Shakai, en vérité, ça s'écrit, le Shakai, je le déforme comme ça, mais ça s'écrit Shin Daled Yud. Et donc, il y a le Daled Yud qui veut dire Dai. Vous connaissez de la Haggadah, ça, Dayenu. Dai, ça veut dire ça suffit. Ça veut dire, si vous imaginez que la création du monde, c'est un monde en expansion, si vous voulez. Bon, alors, le monde est en expansion, et au bout d'un moment, Hachem a dit, ça suffit, stop avec l'expansion. Ça veut dire comme ça, ça veut dire, quand je vous dis, le monde tel qu'il est, il offre suffisamment de situations dans lesquelles les hommes vont pouvoir faire ce que j'attends d'eux, c'est-à-dire reconnaître Hachem comme étant le roi. Voilà, c'est comme ça, c'est. Voilà, il y a assez de situations, donc on n'a pas besoin d'un monde plus grand, plus riche, etc. Il y a tout ce qu'il faut dans le monde. Et donc, ça veut dire que quand on dit qu'il y a toutes les situations, les situations, c'est les toutes sortes de projets divins, c'est-à-dire toutes sortes de façons dont Hachem veut, disons, mettre les hommes à l'épreuve. Des situations dans lesquelles les hommes vont avoir l'occasion de le reconnaître comme étant le roi. Donc, c'est les projets. Et quand Hachem fait connaître les projets, ses projets aux Avot, il le fait souvent sous forme de promesses. Voilà, je ferai ceci pour. Et avec mon nom de. Et malgré ça, ils ont protesté. J'aurais promis toutes sortes de choses. Ils n'avaient pas encore vu. Ils ont fait tout, ils n'ont pas vu. Pas tout vu, en tout cas, ils n'ont pas vu les promesses réalisées. Ça ne les a pas tout entraînés à me faire, comme tu viens de me faire, des procès d'attention, etc. Malheureusement, ça que le Midrash dit. Malheureusement, c'est avec toi que je dois travailler. Ils ne sont plus là. Et c'est donc Nebuchadnezzar qui faut que je fasse avec toi. Toi, je t'avais averti. On entrait dans la période de réalisation des promesses. Et parce que les choses ne se sont pas déroulées comme toi tu pensais qu'elles devaient se dérouler, tu me fais un procès. Mais t'en sais rien, tu n'y connais rien du tout. Tu sais pas. Pas que les choses. Non, il y a des choses que tu sais pas. C'est vrai. On peut se demander pourquoi il faut que la situation devienne encore pire, enfin plus terrible qu'elle n'était avant qu'Hachem les prenne en main et les sorte de Mitzrayim. Pourquoi il fallait encore une couche? Je veux dire, c'est déjà insupportable, il faut encore un peu plus d'insupportabilité, c'est ça le lignage. Et puis, pourquoi est-ce que ça doit passer par toi? Peut-être Paro, il aurait pu avoir cette idée tout seul. Quoi, c'est parce que toi, tu es venu, tu lui as dit ça. Ah, vous dites comme ça. Oh, je n'ai pas pensé que je pouvais encore vous donner un tour de vis supplémentaire. Oh, Hachem, tu m'as rappelé. En mettre encore une couche. Pourquoi? On n'en sait rien, je ne sais pas. Tu n'en sais rien et, d'une certaine manière, c'est tout à fait normal. Il y a des choses qui t'échappent. Tu ne connais pas tout. Donc ça, c'est ce qu'il dit à Moshe. Et il dit à Moshe, Lama ki moti et briti itam, la tête la emet, eretz kinaan, et j'ai fait une alliance avec eux aussi. Je vais leur donner la terre de Canaan, qui est la terre où ils ont habité. Merci. Je vais leur donner cette terre. Et puis j'ai aussi, les Gamani et moi aussi, j'ai entendu les plaintes d'Ebn Israël, que les Égyptiens font travailler, mais qu'ils réduisent en esclavage pour travailler, donc. Vaezkor et Briti, je me suis souvenu de cette alliance. Donc, ça veut dire quoi? Il y a un grand, grand projet. Le grand projet, c'est de leur donner Eretz Israël, donner cette fameuse terre de Canaan. Ce projet-là, c'est le grand projet. Et comme c'est une promesse que je leur ai faite, c'est que maintenant on est dans la réalisation des promesses, voilà, je commence à leur donner cette terre. Et maintenant, devant nous, on a des esclaves, il va falloir tout un processus jusqu'à ce que ils puissent s'installer sur cette terre. Alors voilà, c'est une promesse, donc maintenant je vais la réaliser. Par conséquent, que maintenant ça va se réaliser, la reine, pour cette raison, est mort l'Ibné Israël. Va dire enfin, dit au Bnei Israël, Ani Hachem, dis-leur que je suis Hachem, c'est-à-dire je suis ce Dieu de tendresse, Et je vais vous sortir des souffrances de l'Égypte. Et je vous sauverai, mais Abodatam, de votre esclavage chez eux. Végalti etrem, et je vous libérerai, Mizroan Netouya, avec un bras puissant, ou Mishpatim Gdolim, avec des grands jugements. Vélakarti etrem li le'am, ve'aiti lachem le'elokim, vidatem ani Hashem Elokechem, amotzi etrem mitachat siblot Mitzrayim. Je vais vous choisir comme peuple. Je vais être pour vous un Dieu, l'Elohim, et vous saurez que je suis Hachem, votre Dieu, qui vous sort des souffrances de l'Égypte. Et le summum, donc on est à quatre, hein, et il y a un cinquième, Vevetir, un cinquième verbe, Vevetir, je vous amènerai, Etrem, El Haaretz asher nasati et yadi, vers ce pays que j'ai juré, littéralement j'ai élevé ma main en signe de serment. J'ai la main est dite, sûr. Ouais. Bon, ça, j'ai élevé ma main. La tête haute à Abraham, l'Israël ou Yaakov. J'ai juré à Abraham, Israël et Yaakov que je la donnerai cette terre à leurs descendants. Venatati ota lachem. Et je vais vous la donner à vous, c'est vous les descendants dont j'ai parlé quand je me suis engagé. Je vais vous la donner et cette terre, vous l'aurez en héritage. Bon, on va voir ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça change que cette terre, c'est qu'est-ce que ça veut dire que vous allez avoir cette terre en héritage. Ani Hachem, je suis Hachem. Et, Passouk dit, Moshe Vaidaber, Ken. El Béné Israël, Moshe est allé, il a raconté, il a dit tout ça au Béné Israël, Velo Shamu El Moshe, mais ils n'ont pas entendu Moshe. Ce n'est pas qu'ils ne voulaient pas écouter. Mais Mikotse Ruach ou Me'avoda Kasha, ils avaient le souffle court et ils étaient épuisés complètement par les durs travaux qui leur étaient imposés. C'est-à-dire, quelque part, ils étaient en train de chercher leur souffle, ils étaient complètement épuisés, ils ne pouvaient pas entendre. Ils auraient peut-être bien voulu entendre. C'est pas, ils ne vont pas me croire comme Moshe le pensait. Simplement, ils pouvaient pas entendre parce qu'ils sont dans un état où on ne peut pas entendre. Rashi l'explique sur ces différents noms divins qui sont utilisés ici. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire Ani Hachem, je suis Hachem. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je suis Hachem. Qu'est-ce que c'est censé? Qu'est-ce qu'ils sont censés comprendre par Ani Hachem? Alors, ce n'est pas une comparaison, mais quand quelqu'un dit « Je suis Monsieur X », alors, si je ne connais pas Monsieur X, ça ne me dit rien du tout. Et si j'ai entendu parler de Monsieur X, ah, vous êtes celui dont on a parlé, celui qui a fait, il a fait ça, il a dit ça, etc. Donc quand il dit Ani Hachem, qu'est-ce qu'ils sont censés comprendre? C'est plein, dans la Torah, c'est chaque fois Hachem, plein de situations, Hachem dit Ani Hachem. Des fois il dit Ani Hachem Elokechem. Mais si, Ani Hachem, après il dit Ani Hachem Elokechem. Je suis Hachem votre Dieu. Alors quand il dit Hachem votre Dieu, alors sur votre Dieu, on comprend éventuellement ce que c'est, mais qu'est-ce que ça veut dire en Hachem? Rashi dit, Neeman le shalem sachar tov, la mithalchim le fanaï. Je suis fiable, on peut me faire confiance, Neeman. Le shalem sachar tov, on peut me faire confiance, je paie un bon salaire à ceux qui marchent devant moi. Le Maharal explique. Le Maharal, il explique ça quand Hachem a expliqué, a donné l'autre nom. Il a dit, Eke, je serai. Oui. Alors, le Maharal explique que ça veut dire qu'Hachem dit, je veux entrer en relation avec Israël. Ani Hachem, ça veut dire je suis en relation avec vous, avec Adam. Ça veut dire que tout ce que l'homme va faire doit être interprété, doit être lu comme une relation avec moi. Et par conséquent, toute action humaine doit être entendue comme étant ou bien un processus de rapprochement avec Hachem ou un processus d'éloignement par rapport à Hachem. Entrer en relation, ça veut dire on sera plus ou moins proche. On dit rien de plus dans l'entrée en relation. Donc ça veut dire quelque chose d'assez énorme. Quand Hachem dit Ani Hachem, ça veut dire que je vais valider en fait vos actions, vous allez agir désormais, vous agissez, et vos actions, elles sont à comprendre, à interpréter, la grille de lecture de vos actions, c'est ça. Est-ce que vous êtes en train de vous rapprocher de moi ou est-ce que vous vous éloignez de moi? C'est ça. Quand Hachem dit, je veux entrer en relation avec vous, ça veut dire que je vais donner du sens à ce que vous faites par rapport à moi. Ça veut dire que quand vous conduisez de cette, telle ou telle manière avec vos concitoyens, avec vos frères, avec vos parents, avec etc. Il faut toujours lire ça comme étant une indication sur votre relation avec moi. Ça veut dire que ma relation avec mon prochain, c'est en fait une relation avec Hachem. Alors, on peut l'expliquer en disant, étant donné que mon prochain, il est à l'image d'Hachem, alors là, on comprend bien que ma relation avec lui, ce soit une relation avec Hachem, puisque c'est une relation avec quelqu'un qui est à l'image d'Hachem. Mais on n'est même pas obligé d'aller si loin, puisqu'il a l'air de dire toutes vos actions. En fait, vous construisez quelque chose. Est-ce que c'est... Les Juifs, ils ont pris l'habitude de dire presque ça. On dit que... Dans n'importe quelle situation, donc toujours, est-ce que c'est bon pour les Juifs ou pas? Je me rappelle qu'une fois, celui qui m'a dit cette chose-là de la façon la plus intéressante. Quelqu'un m'a demandé, quand j'étais enseignant à Tel Aviv, il m'a dit, j'ai entendu que tel et tel, il a sorti un nouveau bouquin d'algèbre, est-ce que tu penses que c'est bon pour les Juifs? Vous voulez savoir, est-ce que l'université doit l'acheter ou pas? Alors, lui me demandait si. Non, c'est bon, est-ce que tu penses que l'on prend les Juifs? C'est ça, en réalité. C'est ça, ça veut dire. Est-ce qu'on se rapproche d'Hachem avec ça ou est-ce qu'on ne se rapproche pas d'Hachem? Alors, c'est caricatural, mais d'une certaine manière, c'est comme ça. C'est très important parce que ça veut dire qu'on ne peut rien faire de neutre. Il n'y a pas, c'est pour ça qu'il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de moment où, il n'y a pas de moment où tout à coup, les goïms, ils ont ressenti, ils avaient besoin de vacances. C'est ça qu'ils ont inventé les histoires comme le carnaval, etc. Et des jours dans l'année qui ne comptaient pas. Il y avait des jours qui ne font pas partie du compte de l'année. L'année, elle aura, disons, 360 jours. Et puis, il y a 5 jours qui ne comptent pas. Bon, on ne compte pas, ça veut dire. Et dans le carnaval, c'était un truc que tu mets un masque et tu peux tuer ton voisin, piquer la femme du prochain, etc. Tout est permis. C'est ça le carnaval. Aujourd'hui, on raconte ça sur le carnaval de Rio, etc. Même là-bas, peut-être que c'est obligatoirement comme ça. Mais le carnaval au Moyen-Âge, etc., c'est le moment où on peut se moquer des autorités, etc. Mais malgré tout, on va regarder qui sont derrière. Les gens, ils ont des masques. Mais qui est derrière le masque et qui incite et qui est-ce qui a fait le. Vous connaissez les chars qu'il y a dans le carnaval, les chars qui représentent, je sais pas quoi, les boulangers ou je sais pas quoi, etc. C'est toujours caricatural. Donc, ils ont inventé cette notion de. Je ne connais pas très bien toutes ces fêtes, mais les calendes ou le carnaval ou je sais pas quoi, toutes sortes de. En grec, ou etc. C'est des trucs. Des espèces de temps qui n'en sont pas, quoi. Des espèces de temps où tu peux. Où la loi, elle n'est pas respectée, mais tant pis, c'est permis. Même s'ils avaient besoin, il faut qu'on souffle. La loi, elle nous brime, elle nous empêche de faire ce qu'on veut faire pendant toute l'année. On a besoin d'un petit. Dans la Torah, on n'a pas ça. Il n'y a pas. Ben-Tzion Abba Shaul, il disait, quand on parlait dans les Yeshivot, il y a ce qu'on appelle Ben Azmanim, c'est-à-dire entre les semestres, il y a quelques moments où, bon, la Yeshiva ne fonctionne pas parce que. Et Dieu, lui, il n'a jamais. N'existe pas dans la Torah, Ben Azmanim. Pas de Ben Azmanim pour lui. Bon, les gens. Dans la Gemara, on voit, Rava, il disait à ses élèves, il disait, moi, à l'époque des moissons ou à l'époque des vendanges, je ne veux pas vous voir. Parce qu'il faut bien que vous gagniez votre vie et il y a des choses qu'il faut faire. Je ne veux pas vous voir. La yeshiva, ça ne veut pas dire que chez toi, tu ne peux pas l'emmener, mais la yeshiva, il n'y a pas de cours à la yeshiva à ce moment-là. Que comme par exemple vous avez le Dafayomi, il y a le Dafayomi tous les jours, y compris Tisha B'Av, y compris Yom Kippour. À Tisha B'Av, on ne peut pas l'Hernan, oui, à la fin de la journée, tu peux l'Hernan. À la nuit, tu peux l'Hernan. Tu ne rattrapes pas la nuit. On ne pouvait pas l'Hernan pendant la journée, parce qu'à Tisha B'Av, on ne peut pas l'Hernan. En tout cas, pas le Dafayomi, parce que sauf à être juste dans le meeting d'un bon moment. Toutes les années, ça marche pas.
Oui,
Y a des moments où ça peut marcher, mais une fois dans tout le cycle, quoi, donc. Donc c'est ça qui est très important. C'est important de savoir ce que ça peut vous bien leur dire, parce que tu lis HM, un IHM de je sais pas combien de fois, 500 fois ou 1000 fois dans la Torah. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, Hachem, je suis Hachem, alors. C'est quoi? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, je suis fidèle d'abord. Je suis fiable, pardon. Neyman. Neyman, c'est la fiabilité. On peut me faire confiance. Donc Hachem demande ce qu'on lui fasse confiance. Il dit, voilà, tu peux me faire confiance. Je suis fiable, je paye. Je donnerai une vraie récompense à ceux qui font, qui marchent devant moi, c'est-à-dire, marchent devant moi, ça veut dire qu'ils respectent les lois que je leur ai données. Ça, c'est une première chose. Alors, il explique maintenant le deuxième nom. Elohim, c'est l'ami d'Adin, là, il ne va pas le réexpliquer. Mais il explique Annie, que je me suis montré comme Annie Kel Shakai. Pour les Avot, j'étais Kel Shakai. Alors, Rashi dit Annie hu, sheyesh bi, belakuto, yeshdai belakuto, belakuti, pardon, le kol beria. Ça veut dire, il y a dans ma divinité, si on peut parler comme ça, il y a assez pour chaque créature pour me connaître, pour me reconnaître. Le plus grand des grands, le plus petit des petits, peut me reconnaître. C'est-à-dire, en vérité, chacun peut me percevoir de la façon dont il est capable de me percevoir. C'est-à-dire, en fonction de ses forces, en fonction de ce qu'il est. Taler lefanaï, ça veut dire marche devant moi, ça veut dire sers-moi, c'est-à-dire fais la avoda, fais le travail qu'il faut faire pour moi. Le Ramban n'y pense pas exactement comme lui, il n'est pas d'accord, mais. Bon, ça c'est important, c'est Rashi d'abord. Bon, le Ramban, il ramène Rabbi Avraham Ibn Ezra et il dit que ce que dit Ibn Ezra, c'est juste, sauf que Ibn Ezra n'étant pas un kabbaliste, mais il est arrivé par sa seule réflexion à ce à quoi on arrive par la Kabbale. Le Ramban est un kabbaliste, Ibn Ezra n'en est pas un. Bon, je ne vais pas maintenant entrer pour l'instant, dans le Ramban, ça une autre fois. Hachem. Alors il dit, voilà, je m'étais engagé auprès des Avot, j'ai même juré que. Pas que j'allais le faire, je ne l'ai pas encore fait, je le fais maintenant. Ces fameux quatre verbes-là, tout le monde sait, tout le monde dit, tout le monde sait que ces quatre verbes-là sont la source de ce que le soir du Seder, on boit quatre coupes de vin. Ça, le fait que ces quatre coupes de vin correspondent à ces quatre verbe là, c'est pas marqué dans le Bavli, marqué dans l'Yerushalmi. Dans le Talmud Bavli, il pense pas comme ça. Talmud Bavli, pour lui, il dit que dans la soirée de Pessah, il y a quatre grands moments. Et sur chacun de ces grands moments, on boit un verre de vin. Si vous voulez, le vin qu'on boit, par exemple dans Kiddush, le premier verre d'ailleurs, il est bu à Kiddush. Le premier des Arba Kossot, c'est Kiddush en même temps. Le Kiddush qu'on fait le Shabbat soir, le vendredi soir, le Boré Pnagafen, il n'a rien à voir avec le Kiddush. Le Kiddush, la bracha de Kiddush, c'est Asher Kidshanu v'mitzvotav et sur Shabbat. Baruch Ata Hashem, Kadesh HaShabbat. Yom Tov. Baruch Ata Hashem, Kadesh Israël, Vazmanim. Et pourquoi on boit un verre de vin? Pour la même raison qu'on boit un verre de vin sous la Houppa, pour la même raison qu'on boit un verre de vin à la Mila, on boit un verre de vin, des fois, à Pidyon Le vin, ça amène la joie et ça donne un côté festif à la chose. Donc, pour faire un peu plus festif la déclaration, la Kabbalah du Shabbat, qui a lieu une première fois dans la Hamida, on a déjà fait Kiddush dans la Shemoneh Esrei de vendredi soir. On a déjà dit Mekadesh HaShabbat. Inna Torah, on a fait Kiddush. Bon, les Chachamim, ils ont été metaken, ils ont instauré qu'on allait refaire Kiddush à la Yaïn. Un Kiddush avec un peu plus festif en quelque sorte. Et on va, du coup, il y a toutes sortes de halakhot, c'est-à-dire qu'on va faire Kiddush, mais on fera attention de faire le Kiddush de Makom Seouda. On va l'attacher au repas. On ne peut pas rentrer chez soi à faire Kiddush. Et puis ensuite aller se reposer, et puis quelques heures plus tard, comme par exemple maintenant en hiver, on pourrait très bien imaginer, on revient de la choule, on n'a pas du tout envie de prendre le repas du soir immédiatement. Bon, on pourrait imaginer que bon, on va faire Kiddush, du vin, et puis après on va, je sais pas, étudier, etc. Et puis quand sera l'heure de manger, si on a l'habitude de manger, à 20 h, alors à 20 h, on va se mettre à table et on va manger le Shabbat. C'est pas comme ça. Le kiddush, il doit se faire de Makom Seouda. Il doit se faire là où on mange et après au moment où on mange. Mais le Boré Pri Hagafen, ou Hagafen, quoi qu'on dise, de toute manière, c'est un an plus pour donner un côté festif. Et donc, comme la soirée de Pessah, il y a quatre moments, on va pas en parler, quatre moments importants, sur chacun de ces moments, on boit un verre de vin. C'est ça, pour le Bavli, pour le Talmud Bavli, c'est ça la raison pour laquelle on boit les quatre coupes. C'est pas à cause des quatre Lechonot. Non, le Shulchan Aruch l'amène, les quatre Lechonot, mais c'est en Yerushalmi, c'est pas un Bavli. Bavli, on ne sait pas ça. Alors, je voulais voir avec vous le Meshech Chokhma sur justement ces quatre paroles et ces quatre verres de vin. Le premier kos qu'on a vu, c'est le kos de Kiddush. C'est quoi? C'est Israël Mekadshim Zmanim. Les Bnei Israël, ils sanctifient le temps. Comme ils disent, Kadesh Israël ve'azmanim. Comme c'est marqué à Chodesh Hazelachem, c'est ça la bracha, la mitzvah. Ve'ematay, quand est-ce que c'est fait? Keshem Kedoshim. Quand les Bnei Israël ont de la Kedusha, ils se conduisent avec sainteté, et comme le Kedoshim Tiyu dans la paracha de la Torah, soyez saints, c'est tout proche de la paracha des Arayot. Or, c'est dans ce Pavarikra, juste à côté, la paracha des Arayot. La paracha des Arayot, c'est la paracha de la liste des interdits de relations sexuelles du type inceste généralisé. Les incestes et autre chose, extension de l'inceste qui sont généralisés. Et donc, c'est pour ça que on dit chez Kol Makom, chez Atam Otse, Geder Erva, Atam Otse Kedusha. Rashi dit sur place, sur Kedushim, il dit à partir du moment où les gens se mettent des barrières dans le domaine des relations sexuelles, c'est de la Kedusha. La Kedusha, elle vient de cette façon de ne pas se laisser aller à ses instincts dans le domaine sexuel. Et quand les Bnei Israël respectent ces interdits-là, ils sont plus grands que les Malachi HaSharet. Ils sont plus grands que les anges. Plus. Ça, c'est une première chose. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est marqué deux fois la Kedusha, sujet, c'est marqué Vit Kadishtem, Vitem Kedoshim. Vous sanctifierez et vous serez saints. C'est-à-dire, Mekachim et Azman. Donc, comment est-ce qu'on se sanctifie? On est Mekadesh le temps. Donne de la Kedusha au temps. Donc, quand les Bnei Israël en Égypte était Gdurim v'Arayot, une des qualités qu'on a, qu'on dit des Bnei Israël, c'est qu'ils étaient justement Gdurim v'Arayot, c'est qu'ils se sont pas laissés influencer par le mode de vie de l'Égypte, qui était un mode de vie où, sur ce plan de l'inceste, était une chose courante. La famille de Paro, ils se mariaient qu'avec leur sœur, de toute manière. Et donc, c'était courant. Et les Bnei Israël ont résisté, on dit. Et chez Lachem, Itachen, c'est pour ça qu'Hachem a pu nous sortir de l'Égypte. Chez Imloken, Echiachol Kmota. Que si. Ils avaient fait n'importe quoi, donc ils auraient eu des rapports aussi avec les Égyptiennes, les hommes. Donc Hachem n'aurait pas pu sortir les enfants des Bnei Israël, qui sont les enfants des Égyptiennes. Pas sortir d'Égypte les Égyptiens. Donc, le terme Vehotseti, il est lié avec le fait que les Bnei Israël en Égypte se sont bien conduits dans le domaine de la Kedusha, c'est-à-dire dans le domaine des Arayot. C'est pour ça que c'est lié. Il y a un verre de vin qui est bu au Kiddush, qui fait référence à la Kedusha. Et comme cette Kedusha, quelque part, les Bnei Israël l'ont pratiqué, si vous voulez. On est avant qu'ils reçoivent la Torah. Ils ont pratiqué quelque chose qui est de l'ordre de la Kedusha, en étant Gdurim, en s'étant limité est retenu dans le domaine des Arayot. C'est ça qui les a qualifiés pour être Kedoshim, donc pour pouvoir sortir d'Égypte. Et c'est pour ça que, grâce au fait qu'ils étaient Kedoshim, alors on a pu les sortir d'Égypte, et du coup on peut faire le Kiddush qui a fait la référence, donc, le Kiddush qui est la Kedusha du Zman. C'est ce qu'on dit à Mekadesh, à Israël Ve'azmanim, la bracha, elle est sur le fait qu'on sanctifie le temps. Alors, ça commence comme ça. Sanctification du temps. Sanctification du temps étant que dans le temps, on a mis des moments où on rencontre Hachem. Qu'est-ce qu'on sanctifie? Quand est-ce qu'on dit Mekadesh Israël Vazmanim dans les Zmanim? C'est-à-dire à Yom Tov. Yom Tov, c'est un Moed. Moed, c'est un rendez-vous avec Hachem. Donc, le rendez-vous avec Hachem, c'est le rendez-vous avec la Kedusha, il peut avoir lieu parce que nous, on a fait des efforts dans le sens de la Kedusha. Mais si on ne fait aucun effort de côté de la Kedusha, il ne peut pas y avoir de rencontre avec la Kedusha, avec Hachem. Mais nos efforts qui ont eu lieu en Égypte, on ne s'est pas laissé aller dans le domaine des Arayot, ça nous a qualifiés pour sortir d'Égypte et pour devenir, pour recevoir la première mitzvah, d'ailleurs qu'on a reçue encore en Égypte même, de la Rodéchazé Lachem. Vous allez avoir un nouveau calendrier qui sera votre calendrier. On n'abolit pas l'ancien calendrier qui commence, où l'année commence en Tishri, à Rosh Hashanah, si vous voulez, mais il y a un nouveau calendrier avec une année qui commence au printemps, qui commence au mois de Nissan. Le premier Nissan, c'est le premier des mois de l'année. C'est ça la mitzvah de la Chodesh Hazelachem. Le deuxième terme, c'est Vitsalti. Je vous sauverai. Sauver, c'est sauver quelqu'un, c'est par exemple sauver quelqu'un qui est poursuivi par un goy qui le poursuit pour le tuer. Alors, si on arrive à le sauver, mais si les Bnei Israël se poursuivaient les uns les autres pour se faire du mal, alors ça ne marcherait pas. D'après la Mechilta, c'est le Midrash Halakha du Sefer Shemot. D'après la Mechilta, une des quatre choses qui sont dites au crédit de l'Ebné Israël en Égypte. D'après ça, c'est Rabbi Eliezer HaKedar dit Loya beyadam Israël arba mitzvot. Est-ce qu'il n'y avait pas quatre mitzvot chez kol haolam kedai bahem? Alors, dans les mitzvot que les Bnei Israël ont respectées en Égypte, il y avait chez l'honneur Shudo la Rayot, c'est ce dont on a parlé. Ils n'étaient pas soupçonnés d'inceste et autre chose. Velo al lachonara. Et ils n'ont pas non plus dit du lachonara. Poursuivre l'autre pour le tuer, c'est-à-dire, c'est le lachonara. Le lachonara, c'est déjà une façon de tuer les gens, puisque ça les isole complètement et on dit du mal d'eux. Ils sont mis à l'écart, etc. Les deux autres choses qu'ils ont aussi fait, ils n'ont pas changé leur nom et ni leur langue, mais ça, on y reviendra. Donc, Vitsalti, c'est, ça correspond à, ils n'ont pas dit de la Shonara. Donc ça justifie un kos, hein, de boire un kos de vin, mais pas le deuxième. Ça passe. Ici, on parle du troisième kos. Troisième kos, c'est celui qui est qu'on boit à la fin de Birkat Hamazon, après la fin du Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la malchinoute, l'essentiel de la délation, ça vient d'un manque d'émouna, ça vient d'un manque de confiance en Hachem, manque de confiance dans le fait que Akadosh Baruch Hu est Mashgiach, Akadosh Baruch Hu, il y a une providence, si vous voulez. Et ça vient aussi d'un manque au niveau de la qualité de l'istapkout, de se contenter de ce qu'on a. Or, le Birkat Hamazon marque que les Bnei Israël reconnaissent que c'est Hachem qui nourrit tout le monde. Hazon et Haolam Kulo, c'est les premiers mots. Et puis aussi, ça montre aussi ce qu'on appelle l'istapkout, c'est-à-dire le fait de se contenter de peu. Et ça, c'est la chose suivante. En ce qui concerne la mitzvah de Birkat Hamazon, quand est-ce qu'on est obligé de faire la mitzvah de Birkat Hamazon? Elle est dite dans les psukim, c'est marqué Ve'achalta, Ve'savata, Uverarta. Tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras. Birkat Hamazon après avoir été rassasié. Donc, normalement, Mina Torah, le Birkat Hamazon, il n'est dû que si je suis rassasié. Mais les Bnei Israël, ils ont été marmires et ils ont décidé qu'ils allaient faire Birkat Hamazon, même si on n'avait mangé qu'un seul kezaïd de pain. Que la grosseur d'une olive de pain, on fait déjà Birkat Hamazon. Birkat Hamazon est des Rabbanan, bien sûr, mais donc, on montre qu'on peut se contenter de très peu, ne pas. On exprime notre reconnaissance déjà sur le très peu, le plus petit chiot en quelque sorte. On n'attend pas seulement d'être rassasié, d'avoir le ventre plein pour remercier. On remercie déjà, et quand Amazon, c'est un remerciement pour Hachem qui nourrit tout le monde. Et donc, c'est sûr, cette émouna et cette capacité de se contenter de peu, c'est le Birkat Hamazon. Et donc, cette idée de pas dire de lashon hara, c'est-à-dire d'avoir le souci de l'autre et ne pas faire du mal à l'autre, ça c'est le troisième kos. Donc, le deuxième verbe, il correspond pas au deuxième kos, mais au troisième. Le deuxième, on va le voir maintenant. Végalti, je vous libérerai. Ça vient de la chose suivante. La Gemara, elle considère qu'un esclave, c'est quelqu'un qui a un niveau moral pas très haut. Au point que les Chachamim, ils considèrent que si, vous savez, que on a le droit de faire quelque chose pour l'autre, en l'absence de cet autre, à condition que ce soit son intérêt. Zochin l'Adam, shelo befanav. On fait quelque chose pour l'autre si on pense que c'est son intérêt. Maintenant, la question que se pose la Gemara, c'est est-ce que de libérer un esclave, c'est son intérêt? Et la Gemara, elle dit non. Elle dit que l'esclave, il est très bien dans sa position. C'est une position dans laquelle il n'a aucune responsabilité. Il est pris en charge. C'est vrai qu'il travaille, mais il s'en fiche. De toute manière, il faut travailler. Tant qu'à faire, il n'a aucune responsabilité. Même pas familiale. À la limite, si le maître lui donne une épouse, enfin, met une femme à disposition, il n'aura pas d'obligation de nourrir cette femme, c'est son maître qui doit la nourrir. Et s'il y a des enfants, c'est les enfants du maître, ce n'est pas les siens, il n'a pas de responsabilité par rapport à eux. Et puis, il a la possibilité donc d'avoir des rapports avec des femmes sans responsabilité. Sans... Donc, il est bien. Donc, ce n'est pas sûr du tout qu'il soit intéressé à être libéré. Parle pas de quelqu'un qui souffre. Mais dans son statut, la mentalité d'esclave, c'est une mentalité basse. C'est ce que pense la Gemara. Ça vient aussi de ce que, pourquoi est-ce qu'il, c'est comme ça? C'est parce que l'esclave, il a pas de yichus, ça veut dire, il sait pas d'où il vient. Parce que souvent, l'esclave, il est né dans une, il est né d'esclave, il a été séparé de sa famille parce que il a été vendu à X et ses parents étaient esclaves chez Y, etc. Donc, il n'y a pas de notion de famille, il n'y a pas d'hijos du tout. C'est pas d'où il vient en réalité. Et au contraire, les Bnei Israël, ils ont gardé leur nom, comme on a dit. Ruben, Shimon, Lévi, ils ont continué de s'appeler comme ça. Donc, quelque part, c'est toujours par référence à d'où ils viennent, d'où ils venaient. Bien qu'ils aient été esclaves, ils ont gardé leur nom. Et c'est pour ça que ce terme-là, ce verbe-là, est en rapport avec le deuxième cos. Le deuxième cos, c'est le cos, le deuxième vers, c'est le vers sur lequel on dit la première moitié du Hallel. La première moitié du Hallel, c'est Betzet Israël Mimitsraïm, c'est-à-dire le Yichus. Les Bnei Israël, ils sont un peuple, etc., Yehuda, etc. Donc il y a un souvenir, justement, puisque c'est l'événement. L'événement, c'est que on va dire quelque chose, on va chanter quelque chose qui va exprimer notre yichus, en fait, le fait que voilà, on se rattache aux ancêtres. Le quatrième verbe, Velakachti etchem li le'am. Je vous prendrai pour moi comme peuple. Ça, c'est parce que ils n'ont pas changé leur langue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient espoir de la Géoula. Ils espéraient devenir un peuple. Et ça, ils l'ont pris de Yosef. Yosef, qui était quelqu'un de très, très important en Égypte, évidemment. Mais à son sujet, il est dit, quand il parle à ses frères, il dit, vous voyez bien qu'il pille Amdaber Alechem. Vous voyez bien que j'ai attendu, j'ai toujours espéré. Et c'est lui qui leur a donné le code, le Pakodiv code. Celui qui va venir vous libérer, il va parler, il va connaître un code. Le code, c'est Pakodiv code. Hachem va s'occuper, va vous libérer. Et ça correspond à la deuxième partie du Hallel. Donc c'est le quatrième cos où on dit la deuxième partie du Hallel. La deuxième partie du Hallel, c'est sur la fin des temps, c'est sur Even Maaseu Habonim, Hayta Rosh Pina, etc. Donc avec chacun de ces cosot font référence à une mitzvah que les Bnei faisaient, que les Bnei Israël ont fait en Égypte. Et donc, la raison pour laquelle, vous avez déjà raconté l'histoire du vin? Non? La raison pour laquelle c'est avec du vin, pourquoi boire des causes de vin? On pourrait boire cause de jus de pomme ou de, je sais pas ce que vous voulez, mais du vin. Pourquoi du vin? Parce que d'une certaine manière, le vin, c'est ce qui les a séparés des Égyptiens. C'est de façon générale, dans le galout dans lequel nous sommes aussi, le vin, c'est ce qui nous sépare des goïms. Et ça, c'est de se séparer des goïms, c'est ça qui fait qu'on mérite d'être libéré, sortir de ce galout. Pourquoi le vin? Quand Aman a parlé à Achashverosh et que il lui a demandé, il lui a dit qu'il fallait tuer tous ces juifs, tous les juifs du même jour, etc. Donc c'est Pourim. Qu'est-ce qu'il a dit à Achashverosh pour le convaincre? Il lui a dit, écoute, je vais te donner un exemple. Les juifs, là, s'il y a une mouche qui tombe dans leur verre, ils enlèvent la mouche. Ils jettent et ils boivent le verre. Si toi, tu touches le verre, ils versent tout le vin et ils rincent trois fois le verre. Montrer combien les Juifs se moquent de lui, quoi. On voit très bien, c'est avec le vin que Haman a dit du mal des Juifs. C'est montré là. Le vin sert justement comme là où la différence, elle se fait. Quand tu touches leur vin, pire que si une mouche était tombée dedans, bien pire. Et ensuite, comme vous savez, en fait, ce qui était interdit, Minatora, c'est le vin des libations, le vin qui sert à la qui est versé sur les autels des idolâtres. Mais on a interdit Stam Yenam, on a interdit le vin qui est touché par les goyim pour empêcher les mariages mixtes. Dans un mariage, il faut qu'on puisse boire ensemble, boire, c'est boire du vin, etc. Et pour qu'on puisse pas, c'est pas qu'on peut pas, mais pour rendre plus difficiles les choses, pour qu'on n'en arrive pas naturellement à des mariages mixtes, etc. Alors on s'est interdit de faire ce genre de fête avec eux. On ne boit pas avec eux. On ne boit pas de vin avec eux. Bon, ça c'est les quatre cossottes. Mais il y avait encore la cinquième mot. Cinquième verbe, pardon, velakarti, c'est marqué etrem li le am, veveti etrem el haaretz, et je vous amènerai vers la terre d'Israël que j'ai promise. C'est-à-dire, de là, on apprend, il y a une comparaison entre la sortie d'Égypte d'un côté et l'entrée en Eretz Israël, l'entrée en Israël. Dans les deux cas, ça s'est fait avec 600 000 personnes. 600 000 personnes qui sortent d'Égypte, 600 000 qui entrent en Eretz Israël. Et au temps messianique, c'est, Razal disent, tous les signes qu'Hachem a manifestés en Égypte, il va les remanifester au moment de la Géoula finale. Alors, peut-être je voudrais veux dire, d'avoir quelque chose sur ce verset-là de assez étrange, où Hachem dit, je serai pour vous l'Elohim et vous serez pour moi l'âme. C'est quoi le Lamed? Non. Quoi la lettre Lamed qu'il y a là-bas? Quoi, ça suffisait pas d'écrire simplement Vaiti lachem Elohim, je suis pour vous Dieu. Oui, non. Je vous prendrai comme peuple. Pourquoi je vous prendrai pour moi comme peuple? Pourquoi toujours c'est li l'âme ou lachem l'Elohim? Je crois que ça veut dire la chose suivante. Elohim, c'est l'Elohim du monde entier. Et ce mot d'Elohim, il s'utilise à toutes sortes de niveaux. Il y a une version, si vous voulez, d'Elohim qui est Elohim, qui est profane. Un tribunal s'appelle Elohim. Toutes les forces s'appellent des Elohim. La gravitation, c'est un Elohim. C'est des Elohim profanes, des forces. Puis tout en haut, si on par transcendance, on a l'Elohim de tous les Elohim que nous on appelle Elohim. En vérité, tous les peuples ont un Elohim. Tous les peuples ont ce qu'on appelle l'ange du peuple, comme on dit l'ange de Save, etc. Et a priori, c'est l'ensemble de forces qui concernent, qui s'occupent de ce peuple-là. Personnellement, je me représente la chose, jusqu'à preuve du contraire, comme étant la culture de ce peuple. Oui, je l'entends comme ça. Hachem nous envoie toutes ses bontés. Mais il faut être capable de les recevoir. Or, chaque peuple, chaque véritable peuple, il a sa manière de les recevoir. C'est-à-dire que si vous prenez, disons qu'on vous donne de la nourriture, ben, a priori, en Asie, il faudrait plutôt donner du riz, et puis en Europe, du blé. On peut inverser les choses, en son temps, peut-être pas tellement. Chaque peuple a sa façon de manger, il a sa façon de s'habiller, il a sa façon de parler, il a sa façon d'habiter. Il a un certain rapport entre les hommes et les femmes, un rapport entre les enfants et les parents. Tout ça, c'est spécifique de chaque peuple, en réalité. Aujourd'hui, dans couvert, je sais pas quoi, d'exotisme, il y a beaucoup de mélange, mais en réalité, au fond, les Français resteront toujours comme disent les Anglais, des bouffeurs de cuisses de grenouille, et les Anglais, pour les Français, des bouffeurs de pudding, je sais pas, un truc. C'est ça le. Bah, les Français, les Anglais, ils appellent les Français les froggies. C'est bien clair, ouais. Et donc, chaque peuple reçoit ce qu'Hachem lui donne, mais d'une certaine manière. On danse de cette manière-là, on fait cette musique, on a cette poésie, on a toute la culture, en fait, cette peinture, etc. Il n'y a pas de commune mesure entre la peinture chinoise et la peinture hollandaise. Ce n'est pas la même chose du tout. Vous voyez les tableaux des uns et des autres, vous voyez tout de suite que c'est pas la... ils ne représentent pas les mêmes choses, n'utilisent pas les mêmes formats, enfin, rien n'est... La sculpture n'est pas la même. Tous les peuples ont un Elohim, sauf nous, sauf les Bnei Israël. Nous, on n'a pas un Elohim comme ça. Nous, on est branchés directement sur Elohim. Parce que Hachem a dit, moi, je vais jouer pour vous le rôle d'Elohim. Ça veut dire que je vais m'occuper de vous comme les Elohim s'occupent de leur peuple. C'est-à-dire que bien que je sois l'Elohim du monde entier, cette chose extraordinaire, je serai l'Elohim. Je ne suis pas un Elohim comme les Elohim des peuples. Mais je jouerai pour vous le Lamed, il veut dire, je jouerai le rôle de. Et d'un autre côté, pourquoi est-ce qu'un peuple peut être le peuple d'Hachem? C'est tout juste si Hachem peut avoir un peuple, c'est le monde entier. Il dit non, je vais faire en sorte que vous soyez, vous, mon peuple. Je vais vous prendre comme mon peuple. C'est-à-dire, comme chaque Elohim considère son peuple comme son peuple, quoi, celui qui le représente, ben voilà. Je serai pour vous ça. Je jouerai ce jeu-là avec vous et vous jouerez, et je vous ferai jouer aussi le rôle adéquat d'être mon peuple. Ça, c'est ça, me semble-t-il, les lamed, là, qui sont dit l'Elohim, l'âme. Alors, c'est marqué que le summum. Hachem m'avait dit, ce que j'ai promis, c'est le point culminant, c'est que je vais les amener en Eretz Israël, je vais leur donner la terre de Canaan. Alors Hachem nous l'a donnée, mais on ne l'a pas vraiment bien prise, puisque on l'a perdue à deux reprises. D'une part. Mais d'autre part, ce qui est assez impressionnant, c'est que Chazal disent que quand Hachem a dit à Moshe d'aller libérer les Bnei Israël, vous savez bien que Moshe a refusé. Moshe a refusé parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas aller marcher sur les plates-bandes de son frère, de son grand frère Aaron. Puis il a dit, je ne sais pas parler, puis pour envoyer quelqu'un d'autre, de plus adéquat, etc. Il a résisté pendant 8 jours. Pendant une semaine, pardon. Il a resté une semaine. Et à la fin, Hachem a dit, OK, bon, alors c'est pas toi, tu iras tout seul, tu iras avec ton frère. Hein. Mais, du coup, c'est pas toi qui seras Kohen Gadol, tu seras pas le grand prêtre. Moshe devait être aussi grand prêtre, il devait pas être seulement, il est roi, c'est un roi sans la cour, etc., mais il est roi. Melech, ça parle de Moshe. Moshe est roi, il aurait dû être Kohen Gadol. Mais il a perdu la Kehuna Gdola ici, en refusant. Et c'est Aaron qui sera le Kohen Gadol. Mais on voit très bien que quand on a inauguré le Mishkan, le temple portatif, là, on a fait 8 jours d'inauguration. Et pendant ces 8 jours d'inauguration, le Kohen Gadol, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, quand il était Kohen Gadol, il n'avait pas besoin de ses vêtements d'apparat, etc. Lui, en blanc, en lin blanc, ça suffisait, il était déjà Kohen Gadol. Aaron, il a besoin de ses vêtements. Si Aaron n'a pas ses vêtements, il n'est pas Kohen Gadol. Il a besoin de ses vêtements pour l'être. Et ça, c'est une chose. Et puis, ce qui est encore un peu plus terrible, c'est que, Akadosh Baroukh Hou a dit à Moshe, bon, ben, c'est pas toi qui entreras avec les Bnei Israël en Eretz Israël. C'est-à-dire, dès le début, on est à moins 40 ans de l'entrée en Eretz Israël. Et Moshe sait déjà qu'il entrera en Eretz Israël. Tu vas faire tout le boulot. Tu vas les amener jusqu'à la porte d'Eretz Israël, mais toi, tu n'entreras pas là-bas. Hachem, il n'a pas vraiment apprécié la résistance de Moshe Rabbeinu. Et il a été d'une sévérité incroyable. Alors, Moshe Rabbeinu savait qu'il n'allait pas entrer. Mais pourquoi on voit qu'à la fin, il prie quand même? Parce que Moshe Rabbeinu a pensé que comme HaKadosh Baruch Hu, plusieurs fois, il avait condamné les Bnei Israël. Et quand Moshe Rabbeinu est intervenu, il a obtenu le pardon d'Hachem pour les Bnei Israël. Alors Moshe a pensé que peut-être qu'il lui a pardonné à lui aussi. Que finalement, il pourra entrer quand même. Mais Hachem ne l'a pas pardonné. Donc on lui a trouvé un prétexte. Voilà. Mais Meriba. Donc ça veut dire que d'un certain côté, c'est Moshe, il est énorme, c'est gigantesque, mais Hachem est d'une sévérité avec lui. Il lui a enlevé la Kehuna Gdola. D'accord? Ça veut dire qu'au bout des 8 jours d'inauguration du Mishkan, Hachem lui a dit, tu vas introniser ton frère maintenant. C'est lui qui a dû installer Aaron comme Kohen Gadol. Pas seulement que il est l'autre Kohen Gadol, mais c'est toi qui dois l'installer. Et donc, du coup, mon cher Rabbeinu, on peut dire, il a goûté à la Kehuna Gdola pendant 8 jours, et on l'a lui enlevé. Je me demande si ce n'est pas pire que de ne pas avoir goûté. Peut-être que non. Peut-être que, voilà, il a fait l'expérience. Il a eu l'expérience de la Kehuna Gdola. Et ça, le fait qu'après, Aaron, lui, il ait besoin de vêtements d'apparat pour être Kohen Gadol, c'est une petitesse du peuple. On voit que le peuple, s'il avait été gouverné, même comme Kohen Gadol par Moshe Rabbeinu, il n'aurait pas eu besoin de tout ce déguisement, puisque c'est une espèce de... Il faut paraître, il faut en jeter. Les vêtements sont des vêtements super luxe, quoi, très sophistiqués, etc. Mon cher, il n'a pas besoin de tout ça. Les Kohen Gadol. Voilà ce que je voulais dire. C'est le paracha qui est extrêmement riche. On n'a pas parlé des Makot parce que on en dira très probablement la prochaine fois. Il en restera 3 quand même pour la prochaine fois. Donc, je ne serai pas complètement frustré.